On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution.
Working people, young people, the elderly, all of us need to get involved. We need to take our power into our hands collectively.
Bienvenue au podcast d'Alternatives Socialistes.
Bonjour tout le monde, bienvenue au tout premier podcast d'Alternatives Socialistes. Bonjour Charles.
Salut.
Écoutez, à Alternatives Socialistes, on est un groupe de socialisme démocratique qui préconise le besoin et l'atteinte d'une révolution pour la classe des travailleurs. Parce que Charles, je pense que le monde, ça va pas exactement bien.
Ça va pas très bien au niveau de nos ressources, de l'écologie, de l'environnement et de nos salaires, nos conditions de vie.
Ben c'est ça. Puis là, on rajoute ça, l'antiracisme, le féminisme, le traitement de nos sans-abri. Tu sais, il en manque pas de dossiers, mais tu sais, nous autres, on se dit socialiste, socialiste. Mais toi, personnellement, t'es rentré dans l'alternance socialiste. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette direction-là, plus loin que les groupes de gauche un peu plus populaires?
Très bonne question. Pour faire vite, moi, ça a été ce qu'on appelle ici 2012, hein, la grève étudiante, qui, moi, j'étais à la fin de mon secondaire, puis ça, ils ont comme allumé des lumières. Là, moi, je me demandais c'était quoi ça la gratuité scolaire, c'est quoi ça le capitalisme. Puis par la suite, ça a été des expériences de travail qui, finalement, ont fait en sorte que je comprenais de quoi ces gens-là en 2012 parlaient.
Ah ben c'est ça. Moi aussi, c'est très, très, très similaire. Je me suis rendu compte d'une couple de choses par la pratique de 2012 parce que, tout comme toi, j'étais très, très, très actif à l'époque. Moi, j'étais à Concordia, puis j'étais à l'Union étudiante, le syndicat étudiant de Concordia, CSU. Puis, tu sais, il y a certaines conclusions qui se font par la pratique. Comme par exemple, on a besoin d'un mouvement de masse.
Ouais.
Tu sais, 10 dans une salle à demander au gouvernement de faire un changement, t'iras pas grand... Tu vas pas nulle part avec ça.
C'est ça.
Fait à l'époque, je m'étais demandé, ben Colin, vu qu'on a une politique qui demande le nombre, qui demande la solidarité, ben c'est quoi le mouvement social qui est le plus directement relié à cette philosophie-là? Puis c'est là qu'on rentre dans le marxisme.
Ouais.
Fait que c'est ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, du marxisme, des classes sociales, de la révolution, puis de la révolution dans un contexte parce que Bernie Sanders est là, il se dit révolutionnaire, que les groupes gauchistes ils se disent révolutionnaires, mais moi ce que j'aimerais parler là, c'est la révolution qui a créé notre monde en ce moment. Puis ça, c'est les révolutions qui se sont passées en France puis en Angleterre au 16e, 17e, 18e siècle. Pourrais-tu m'en parler un peu de ces révolutions-là?
Ben certainement. Les deux, on va y aller très rapidement puis de façon assez simple. Les deux points en commun qu'ont la révolution industrielle anglaise puis que va avoir la révolution française, c'est qu'elles sont menées par cette classe sociale-là qu'on a appelée la bourgeoisie parce que depuis le Moyen-Âge, elle vit à l'extérieur des forteresses, dans les bourgs, les faubourgs.
Okay.
Qui, ces gens-là, ça donne que c'était des artisans très productifs ou des commerçants très productifs. Puis, à force des choses, hein, rappelons que ces gens-là vivaient sous des gouvernements monarchiques.
Oui,
puis, ils trouvaient pas leur compte, ou ne serait-ce que dans la place dans leur société, ils se voyaient refuser leur travail, qui était le commerce, finalement.
Mais la bourgeoisie, c'est un terme qu'on entend souvent. Ça existe encore aujourd'hui?
Ben, si on est marxiste, moi, je te dirais oui.
Ah.
Les classes sociales existent toujours.
Et voilà. Donc, la bourgeoisie, en fait, comme on vient de la définir, c'est ceux qui contrôlent les commerces, les industries, les forces productives, dans
c'est
le fond.
C'est ça, exactement.
Si t'as une manufacture qui fait des souliers, ben, t'as une personne qui possède la manufacture au complet, puis t'as tout le reste qui travaille dedans.
Exactement, oui.
Mais à l'époque, c'était pas une grosse classe sociale, parce que la plupart des gens, c'était des paysans.
Tout à fait.
Fait que, avant d'avoir la révolution bourgeoise qui a donné lieu, tu sais, au Parlement qu'on a en ce moment, ben, on avait, comme tu disais, la nobilité, puis les rois, les reines et tout, mais c'était quoi le conflit social entre la classe bourgeoise, qui était émergente à l'époque, puis la classe sociale qui était de nobilité, qui était monarchique? C'était quoi le conflit entre ces deux-là?
Ça, c'est vraiment intéressant et pertinent. Bref, pour des raisons, moi, je vais aborder la question... En tant que marxiste, il faudrait aborder la question matérielle, mais il y a quelque chose qui est très intéressante aussi, et je le prendrai par ce bout-là pour commencer, c'est la question de la religion qui, dans le christianisme, du moins la vision que ces gens-là, l'élite avait, ils aimaient pas ça l'argent, fait qu'ils pouvaient pas aimer ça le profit, puis les bourgeois, eux, comme ils étaient des commerçants, ben ils voulaient, leur intérêt de classe, comme on parlerait en termes marxistes, leur intérêt dans immédiat, dans le long terme, c'est de pouvoir avoir un système qui leur permet de faire de l'argent pour gagner leur vie.
Parce que la manière que les taxes étaient mises, la manière que l'État était administré, vu qu'il n'y avait pas le contrôle du gouvernement, c'était pas à leurs avantages.
Ah, tout à fait.
Puis je pense que tu me rappelleras, mais qu'en France, il y a quand même eu des conflits à cause de cette espèce de combat de classe-là entre l'ancienne nobilité puis la nouvelle classe bourgeoise qui voulait pas, dans le fond, suivre les moyens de taxation qui bénéficiaient la classe sociale qui était autre que la leur, donc la nobilité.
Ben c'est ça, tu sais, quand on a un des régimes monarchiques, c'est-à-dire qui est contrôlé par un seul homme, une seule caste, on se retrouve avec beaucoup de problèmes, comme la guerre par exemple. Mm-hmm. Fait que si on prend le cas de la France, comme tu viens de le mentionner, tu sais, en 1776, c'est les États-Unis qui veulent faire l'indépendance, les Français finissent par les aider parce que ils veulent en finir avec leur vieil ennemi d'antan qui est la Grande-Bretagne,
ouais,
finalement.
Ben oui.
Mais à la suite de cette guerre-là, le royaume de France, puis la guerre de, je pense, la guerre de 30 ans qu'on appelle, sont ravagés. Puis là, la royauté, l'aristocratie se dit, bon, qui c'est qu'on fait payer, là? Les paysans, non, on va pas se risquer à avoir une autre révolte paysanne.
C'est ça.
Fait que ça va être les bourgeois qui commercent. Vont avoir des taxes. Puis à un moment donné, ben, voilà, 1789, donc la Révolution française éclate. Puis là, ça va être une transformation radicale avec le temps de la société.
Fait que c'est important de le mentionner, tu sais, cette révolution-là se fait à partir d'intérêts de classe, d'une bourgeoisie émergente.
Oui.
Puis si on revient en Angleterre, je pense que, tu sais, parce que l'Angleterre, cette révolution-là, s'est faite d'une manière, tu sais, relativement plus pacifique,
oui,
si on regarde la Révolution française. Je pense que, justement, la Révolution française, de par la menace de la classe noble de l'époque, a un peu engendré une certaine peur de guerre civile en Angleterre, ce qui aurait genre rendu la révolution un peu plus pacifique, si on peut le dire comme ça.
Oui.
Donc, en Angleterre, la classe bourgeoise, donc celle qui contrôle le capital, devient en contrôle du Parlement. Puis c'est important de le dire que au tout début, Charles, de cette société-là, pour être un membre élu du gouvernement, que nous, on appellerait le gouvernement bourgeois, il fallait que tu sois propriétaire de capital.
Eh, oui.
Fait que si t'étais un paysan ou un travailleur ou peu importe, un prolétaire, comme on pourrait appeler, tu pouvais même pas te faire élire à ce parlement-là. Puis encore moins si t'étais une femme, encore moins si t'étais un immigrant.
C'est clair.
Fait que, dans le fond, l'origine de notre démocratie en ce moment, c'est ce système-là.
Oui.
C'est
oui.
Un gouvernement contrôlé par ceux qui ont le contrôle sur le capital.
C'est ça. Puis ce système-là, il s'appelle le libéralisme.
Ah!
Tu sais, on vient de mettre un doigt sur un premier bobo.
Donc, avant le libéralisme, c'était le monarchisme.
Ouais, ouais.
Puis là, on a tombé sur le libéralisme.
C'est ça.
Puis nous autres, je pense que notre argument, c'est que à partir du capitalisme, à partir du libéralisme, devient la possibilité de créer le socialisme.
Ouais.
Mais aujourd'hui, on parle de libéralisme. Fait que le libéralisme, c'est un système économique qui devient un système politique, mais qui devient aussi un système d'idées.
Ouais.
Peux-tu me parler un peu du système d'idées qu'on appelle le libéralisme?
Ben, ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est comme l'influence entre le politique puis l'économique. Bref.
Le matérialisme.
Ouais, c'est ça. J'y arrive tout de suite. Mais oui, effectivement, le libéralisme, est né dans un contexte de monarchie européenne, puis qui avait comme prétention d'humaniser, si tu veux, le système. Mais
ben,
l'humaniser du point de vue de qui?
Ouais, toujours la bonne question.
De gens soit éclairés, des philosophes, mais aussi de la grande bourgeoisie.
Mm-hmm.
La petite bourgeoisie, elle a toujours eu de la difficulté à s'exprimer, même dans ses moments de gloire, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais mon point est que... Le libéralisme naît au moins au 17e siècle sous la forme politique et va très rapidement vouloir accoucher de sa propre théorie économique pour pouvoir réaliser ses aspirations.
Parce qu'il faut le dire, il faut que pour... Mon Dieu, je vais refaire ça. Pour que le système soit légitime, il faut que tu crées un système de pensée pour que la population accepte le type de gouvernement sous lequel ils existent.
Exactement.
Donc, par exemple, moi, mon exemple préféré, c'est l'excuse, si on lit les anciens romans, l'excuse avec laquelle ces bourgeoisies-là, dans le fond, ces États-là, ces gouvernements-là, faisaient de l'impérialisme. Allaient dans d'autres pays, l'Afrique, l'Amérique, peu importe, puis défendaient leur intervention dans ces pays-là à des meurtres de masse, de massacres, de souffrances, de tortures, d'esclavagistes. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans leur système à eux, ils pacifiaient et civilisaient ces populations-là. Mmh. Donc, de leur perspective à eux, parce qu'ils ont le contrôle du discours, ben c'était super beau, là. C'était une belle opération de charité, de civilisation. Ben ouais, félicitations. Il en reste plus gros de vous autres, mais ceux qui restent, on vous a civilisés. Fait que dans le fond, ceux qui contrôlent le discours, viennent créer un discours qui est absolument merveilleux pour eux-mêmes.
Oui, 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 c'est ça. Leur, comme leur intérêt monétaire, ou pour prendre un mot plus marxiste, leur intérêt de classe, finalement, a accouché d'un discours qui allait avec. Mais les deux sont interconnectés, c'est-à-dire qu'il me faut telle loi pour permettre d'exploiter telle personne ou telle ressource, tu sais.
Exactement. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est les mêmes règles. Aujourd'hui, on a ceux qui disent que, par exemple, si tu travailles fort, là, tu vas t'enrichir, tu vas devenir riche. Mais scientifiquement, c'est juste si tu regardes les données de nos universités puis les recherchistes qui travaillent aujourd'hui, les chercheurs d'ailleurs, ben c'est pour la grande majorité de nous, même si on avait 4 jobs et demi puis qu'on se tuait au travail, on ne deviendra pas Jeff Bezos.
Non, jamais. Ça, c'est impossible.
Fait que, tu sais, il y a toute cette manière de formuler les idées, puis l'Église, je pense qu'elle a une grande partie là-dedans, surtout quand on remonte à l'époque.
Totalement.
As-tu un peu d'exemple sur la manière que l'Église canonisait les intérêts de classe de la monarchie, puis c'était quoi le discours de l'Église quand c'était monarchique, puis ça a été quoi le discours de l'Église après, quand il y a eu une révolution des bourgeois?
Bon, ben il y a vraiment un très grand paradoxe des contradictions, parce que on s'entend que l'Église catholique est une Église extrêmement riche, du moment qu'elle s'est affirmée en Europe, elle est devenue totalement riche, en plus à l'aide de conquêtes. Mais elle a toujours condamné le commerce, le profit, puis c'est pas pour rien qu'on va dénoncer aussi les Juifs à l'époque du Moyen-Âge, parce que, pour une tradition de commerçants, etc., etc., c'est pas le fun, ça, faire des prêts usuriers, faire du commerce, prêter de l'argent, être propriétaire, puis faire de la location, c'est pas bien vu, ça. Mais l'hypocrisie de la chose, c'est qu'elle-même va jouir d'or et de matériaux venus de l'étranger qui vont enrichir cette Église-là pour assouvir et sa domination. Mais il y a un schisme à un moment donné qui s'appelle le protestantisme. Puis lui, le protestantisme, lui, il est bien intéressant parce qu'il va venir, j'épargne les détails, mais allez lire Max Weber sur la question, le sociologue Max Weber. Mais le protestantisme dit finalement, il y a comme pas de salut, puis que finalement, t'es comme interconnecté à Dieu, fait que ta réussite sur Terre, elle est maintenant, ici. Ça veut dire que fais de l'argent tout de suite, puis tu vas être reconnu par Dieu.
Lui, il disait faire de l'argent, parce que moi, dans la révolution religieuse que je me rappelle de mémoire, c'est que un moment donné, quand les masses ont commencé à apprendre à lire, ben là, c'est là que la révolution protestante, si je ne m'abuse, est arrivée. Puis là, il a dit que la relation avec Dieu, c'est personnel.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Pour moi, c'est la naissance un peu, l'aboutissement d'un début d'individualisme sociétal, que là, aujourd'hui, l'individualisme, c'est donné. Tout le monde est l'individualiste du « je, me, moi ». C'est acquis, mais c'est donné, mais à cette époque-là, c'est là que je vois ça. C'est là que je vois l'évolution des pensées.
Mais là, tu viens de me donner une idée d'un prochain podcast. C'est comment le protestantisme, finalement, la réforme protestante, accouche de la tradition anglo-saxonne libérale. Tout ça est interconnecté, mais là, on rentre pas dans les détails.
Okay.
Mais tout ça pour te dire que le protestantisme et l'humanisme ont joué un rôle considérable dans l'avènement du libéralisme.
Ouais.
La réforme de l'Église qui permet plus de liberté, réforme de ci, de ça, puis finalement qui va aboutir avec la Révolution française à la reconnaissance de l'individualité.
Absolument. Bon, ben, écoute, cette idée de podcast-là, mon homme, je la prends en note parce que ça va être une bonne idée pour un autre tantôt. Mais comme tu dis, faut rester sur nos bases, faut rester sur l'explication du marxisme. Mais là, on vient de faire le tour du changement révolutionnaire entre les intérêts de classe nobles jusqu'à un intérêt de classe bourgeois. Puis là, j'aimerais ça qu'on revienne un peu à aujourd'hui.
Ouais.
Parce que là, nous, en tant que travailleurs, on a des intérêts de classe.
Tout à fait.
Comme par exemple, moi, quand je vais travailler, ben j'aimerais ça que mon salaire y suive au moins le taux d'inflation.
Ouais.
J'aimerais avoir des assurances pour que si jamais je me casse la main, que je me fais pas juste sacrer à la porte, puis là, après ça, je me retrouve à la rue. Mais Charles, les intérêts des bourgeois en ce moment, ben ça a l'air de quoi?
Ben là, les capitalistes bourgeois sont très mal pris, mais ils ont des solutions à tout.
Bon.
La question environnementale, c'est à ça que je fais référence. Comment ils peuvent arrimer leur intérêt monétaire, c'est-à-dire le droit au profit avec l'environnement qui finalement les ressources planétaires sont limitées. Ben moi je pense que maintenant leur intérêt de classe est toujours au profit, mais ils appellent ça du
greenwashing.
Ouais, greenwashing, merci. Ouais. C'est ça, fait que finalement leur intérêt de classe change pas depuis qu'ils sont au pouvoir là.
Ben c'est ça, fait que si moi je veux que mon salaire augmente, eux ils veulent réduire mon salaire. Si moi je veux des lois environnementales pour protéger mon patrimoine du Québec,
voilà.
Eux, ils veulent exploiter, ils veulent créer des mines, des pipelines, puis tout ça.
Ils ont de l'imagination.
Donc, oui, on imagination titi. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que sur une base, tu sais, on commence le simple. C'est
oui.
Une des notions du marxisme de base, c'est que en tant que classe, on a des intérêts.
Oui.
Puis eux, en tant que classe, ont des intérêts. Puis oui. Les nobles à l'époque, la monarchie, puis tout ça, ben, ils avaient des intérêts qui étaient différents des bourgeois.
Oui.
Donc ça, c'est super important de savoir ça, puis de commencer avec ça. Mm-hmm. Mais la question devient, pourquoi est-ce que c'est pertinent, puis pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une conscience de classe aujourd'hui, Charles?
Tu parles pour les travailleurs, travailleuses, oui. Ça, j'imagine?
Tu sais, dans un contexte ouais. De lutte sociale, ouais. Pourquoi est-ce que nous autres, on préconise vraiment l'approche de classe? Comment est-ce que ça nous différencie de d'autres groupes, puis pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette approche-là?
Premièrement, ce qu'on appelle la conscience de classe, pourquoi elle est importante? Mais tout simplement pour qu'on ait un portrait véridique mm-hmm. de notre propre situation. C'est-à-dire que moi, je demande à n'importe qui autour de moi, là, qui n'est pas patron, là, mettons, oh, ouais. Là, pour faire ça simple.
Travailleur.
De faire une liste, puis de se dire c'est quoi mes intérêts, puis on va réaliser que finalement, on a des intérêts, toi puis moi, en commun.
Mm-hmm.
Donc, mais pour avoir un portrait réel de notre situation,
mm-hmm.
c'est pas en commençant en adoptant la vision de celui ou de celle qui prend nos ressources, c'est-à-dire le patron. Donc, l'analyse de classe, elle trouve un raisonnement que si... bon, c'est plate à dire si elle a une oreille attentive, certes, mais ce que je veux dire, c'est que la première concernée par l'idée de conscience de classe, c'est la classe en soi.
Absolument.
C'est-à-dire que les travailleurs-travailleuses se posent pas la question en se levant le matin en se disant « Ben moi, c'est quoi mon analyse de classe? » Mais au contraire, le système, la contradiction du système, c'est que ils viennent leur poser la question à chaque jour « Comment je fais pour mettre du pain sur ma table? Comment mm-hmm. je fais pour me loger à la vue des bulles spéculatives puis des crises de logement, etc., etc.? » Les travailleurs-travailleuses, sans s'en rendre compte, vivent déjà de cette analyse-là. Ils l'ont devant eux, ils la vivent à tous les jours et c'était pertinent pour avoir leur juste.
Donc, dans le fond... En termes, c'est fort, fort simple, t'sais, les priorités de notre vie de tous les jours,
ouais.
C'est ce qu'on pourrait dire, c'est nos intérêts de classe.
Exactement.
Donc, payer mon loyer, sortir ouais. la fin de semaine, ou avoir un peu d'argent pour sortir la fin de semaine. Si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, de ne pas me sentir comme quoi ma famille au complet va faire banqueroute.
Mm-hmm.
Toutes ces questions-là, c'est des intérêts de classe.
Tout à fait.
Puis, de la même manière, les intérêts de classe des capitalistes, c'est ben, comment est-ce que je fais pour empêcher que le gouvernement mette une loi environnemental qui va me coûter des profits, que exact. Le gouvernement m'oblige à engager, par exemple, des femmes enceintes, parce qu'on sait que si tu es une jeune femme, tu vas te faire... Ça arrive souvent que tu te fais discriminer parce qu'il y a une chance que tu aies un bébé puis tu manques du temps productif mm-hmm. pour le patron. Fait que lui, le patron, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il veut faire de l'argent, fait qu'il veut pas t'engager. Fait que, dans le fond, la vie de tous les jours matérialise, dans le fond, ton intérêt de classe.
Ouais.
Puis, ça, c'est un... Il faut s'en rappeler parce que, tu sais, quand il y a eu la révolution, comme on disait plus tôt, entre la noblesse et les bourgeois de l'époque,
ouais, ouais.
Ben, voyons donc, il n'y a pas de bourgeois qui sont allés avec la noblesse dans une salle pour dire, bon, ben, entre toi et moi, comment est-ce qu'on travaille ensemble?
Non, c'est ça.
Fait que,
ils ont essayé, mais...
ben, ils ont essayé, mais c'est ça qui est arrivé, c'est que le système ne pouvait pas accorder un contrôle des moyens productifs aux deux classes.
Exact.
C'est impossible. Pour avoir contrôle sur ta société puis maximiser ton impact de classe, il faut que tu aies un contrôle sur tout. Exact. Sauf que la différence est celle-ci. Quand la nobilité puis la bourgeoisie entrevoyaient la société puis la manière de la gouverner, c'était une relation hiérarchique.
Ouais.
Donc, eux, leur but, c'était d'exploiter, dans le fond, le travailleur des paysans,
mm-hmm.
exploiter le travail des travailleurs, mm-hmm. travailleuses,
mm-hmm.
pour s'enrichir. Donc, dans le temps de la paysannerie, c'était, ben, quand tu récoltais 100 kilos de grains, ben, t'en donnais 10 à ton seigneur. Puis, dans le cas du capitalisme, ben, si tu fais un travail qui génère 20$ de valeur, ben, lui, il en prend 10. Puis, toi, ton salaire, c'est 5. Puis, là, ouais. 5, c'est dans l'équipement, puis tout ça.
Mm-hmm.
Donc, dans le fond, c'est de se rendre compte, en premier lieu, que si on est pour se battre, ben, on peut pas mélanger les intérêts de classe entre les unes avec les autres.
Non, c'est ça. Puis mon deuxième point que je voulais mentionner, c'est ne serait-ce que le nombre de gens qui appartiennent à ce qu'on appelle la classe ouvrière.
Mm-hmm.
Bon, les Anglais, ils ont un bon terme, c'est « the working class ». Je trouve que ouais. c'est plus respectueux de l'ensemble des métiers qui font partie du fameux 99% finalement mm-hmm. qui est finalement la très, 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 très grande majorité de l'humanité. Absolument. Mais il faut prendre conscience qu'on existe en tant que classe sociale et quand on est plongé dans un système capitaliste, libéral, dans notre le capitalisme, en fait, nous oblige d'être égoïste dans un certain sens et c'est pas facile de prendre en considération l'existence d'autrui autour de nous quand on est plongé dans la pauvreté, voire la misère.
Ben non, mais c'est ça. On est dans un système où est-ce qu'on est tous responsables, quote-unquote, de notre propre bien-être. Mm-hmm. Fait que si moi je vois un sans-abri au métro, ben c'est pas mon problème. C'est sa vie à lui, puis il est responsable. Tout le monde est responsable de leur propre bien-être. Mm-hmm. Donc, dans ce contexte d'individualisation totale de l'individu, où est-ce qu'on est tous séparés avec l'un l'autre,
exact.
Que ton succès, il est pas du tout lié avec le mien, puis c'est compétition, compétition, compétition tout le temps, ben c'est devenu presque difficile de s'identifier à un bien commun.
Ouais.
Que là maintenant, je trouve personnellement, puis tu m'en parleras, que les mouvements sociaux, il y a plusieurs gens qui veulent faire une action individuelle, mais avec d'autres groupes, t'sais, avec d'autres gens.
Ouais, ouais.
Fait que moi, je pense surtout à un groupe en particulier où est-ce que ils préconisent que les individus se fassent arrêter par la police. Fait que eux, ils veulent pas organiser un mouvement de masse populaire. Eux autres, ils veulent que des individus, genre 20, 30, 40, 50, se fassent arrêter par la police. Ben, ça, pour moi, c'est emblématique de exactement de ça de quoi on parle.
Ouais. Écoute, j'ai entendu une phrase merveilleuse, où j'ai lu une phrase merveilleuse, je sais pas si c'est sur, justement, Facebook ou à une émission de radio, mais qui disait, la personne disait, aujourd'hui, les mouvements sociaux ne fait que fédérer des individualités.
Bon, et voilà.
Ben moi, je pense que l'exemple que tu m'as donné, c'est exactement ça à quoi je pensais. C'est finalement, on se rassemble tous dans la rue, là.
Ouais.
Puis, mais on n'a pas besoin d'avoir un programme commun, pas besoin d'avoir un plan commun. Ça. On est là. On va le transformer. On a le nombre. Mais malheureusement, c'est pas parce que t'as le nombre que t'as les actions correctes. La praxis n'est pas nécessairement correcte.
Ben c'est là qu'on rentre dans la question du politique. Parce que, tu sais, les mots, avec l'usage courant, changent un peu de nature. Comme par exemple, économie, quand je dis économie, les gens, ils pensent à quoi?
Moi, je te dirais finance.
Ouais, c'est ça, c'est finance. Sûr? La section du devoir, la section de la presse.
Oui, c'est vrai.
Le Nasdaq, le Walmart, le Facebook, whatever, la Chine, c'est tout le kit. Mais l'économie, en réalité, c'est juste l'administration des ressources puis des forces productives de ta société puis la distribution des biens à tout le monde.
Ça, exact.
La base, il y avait une économie d'une société de chasseurs et cueilleurs. Il y avait une économie avec les paysans.
Ouais.
Puis là, il y a une économie aujourd'hui. Mais à la base, c'est la question de comment est-ce qu'on gère notre production. Puis c'est la même chose avec politique. Politique, quand on en parle, ouais, tu sais, avec nos parents, Noël, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire.
C'est les partis, quoi.
C'est les partis. Ouais. Puis là, quel parti va gagner aux prochaines élections? Mais c'est quoi, en réalité, la politique, la définition?
Ben, la politique, c'est tout ce qui va organiser la vie en société. C'est voilà, aussi simple que ça. Puis ça, c'est nos amis, les Grecs, qu'ont inventé. pas inventé, je sais pas s'ils ont inventé, mais du moins qu'ont mis ça de l'avant. Puis c'est, écoute, si le monde pouvait juste prendre cette définition-là, pas à la légère, mais avec toute sa simplicité, il réaliserait à quel point il y a une grandeur derrière cette idée-là. C'est tout ce qui organise la cité. Ça veut dire c'est autant toi puis moi, finalement, ben, autour ça, de ce micro-là, mais on s'entend qu'on aimerait ça que ça aille plus loin que juste toi puis moi autour d'un micro.
On veut du monde en masse.
Et de se faire arrêter.
Mais tu vois, ouais. Mais tu vois, on revient au marxisme, parce que le marxisme, c'est premièrement une conscience de classe, puis un respect de ce qu'on veut, tous les membres de la classe. Donc, moi, personnellement, en tant qu'homme de 32 ans, ben, mes intérêts classe sont différents d'une personne qui en a 85. Elle a probablement besoin de médicaments à bon marché ou gratuits, probablement besoin d'habitation pour personnes, tu sais, en situation semi-indépendance, qui est probablement différent des intérêts classe d'une mère. Mais d'une mère de famille, bref, qui a besoin des services et tout ça, ou d'un père de famille, même chose. Mais une conscience de classe veut dire que, tout comme je m'attends à ce qu'eux, ils respectent mes priorités, ben moi, je respecte les leurs, en longtemps qu'on soit ensemble dans un programme.
C'est ça. Puis je pense qu'en France, en ce moment, on a un exemple merveilleux sous nos yeux. T'as les gens qui manifestent contre la réforme des retraites, mais là-dedans, t'as des gens qui sont déjà à la retraite, puis des gens qui viennent de rentrer dans le milieu de travail, puis sont inquiets pour leur avenir.
Ben, c'est ça.
Mais ils se retrouvent dans la rue ensemble avec les mêmes revendications. Ça, c'est une manifestation de la conscience de classe. Il y a les gilets jaunes aussi que eux, c'est pas, ils sont solidaires avec les retraites, mais là il y a la question de l'essence ça coûte trop cher, se loger ça coûte trop cher, tout à manger ça coûte trop cher, etc., etc. On espère que tout ça va converger ensemble. Puis là ça sera pas juste l'expression de quelques factions de la classe des travailleurs, ça va être la conscience de classe dans un même canal. Puis tout voilà. Ça a un point en commun, ça s'appelle la politique. Tu parlais de l'homme de 85 ans, puis de la jeune fille étudiante qui, elle, est inquiète de son salaire pour pouvoir payer ses études. Mm-hmm. Puis l'autre, c'est ses médicaments. Le point commun, c'est que ce qui va organiser ça, c'est la politique. Il n'y a mm-hmm. rien d'autre. Fait que moi, l'affaire de être, il y a des causes apolitiques, je crois pas à ça. Puis un marxiste ne peut pas croire à la politique. Tout est politique.
Ben, c'est ça qui arrive.
Et donc, tout est économique aussi.
Puis même les mouvements qui se disent du post-moderniste, je peux même pas dire post-moderniste, ben, eux autres, au moins, ils vont être d'accord avec nous pour dire que tout est politique, y compris la communication, y compris la représentation, l'image et tout et tout. Et
y en a des paramètres, là.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tu crées une société, tu crées une culture, tu crées un social, à même les interactions entre humains. Donc, toute interaction vient jouer dans le contenu de ta société, puis les valeurs de ta société. Sauf que nous, on va vraiment préconiser les intérêts de classe des travailleurs.
Ben, je veux juste, peut-être pour les gens qui vont nous écouter ou qui nous écoutent, c'est juste, en fait, je pense que si j'ai compris ta dernière intervention, ce que tu veux dire, c'est que nos agissements, nos actions en société sont quand même pas déterminés au sens que on n'a plus de libre arbitre, mais quand même, on est le produit de notre société, finalement.
Absolument.
Donc, de ce qu'on appelle le libéralisme et le capitalisme. Et ce que j'ai bien compris, ce que tu voulais dire, c'est que finalement, tout est politique parce que on habite dans un même système, puis qu'on peut pas faire abstraction de ce système-là.
Oui, puis absolument, mais dans le même sens aussi que les contradictions de notre société, que ça soit, par exemple, on a une diète qui est riche en viande, on a une certaine population au Québec qui prend leur camion pour aller travailler. Ben, dans un contexte de crise où est-ce que, tu sais, on a l'environnement qu'il faut prendre soin, ben, tous ces gestes-là vont faire partie du problème. Mm-hmm. Donc, là, en ce moment, j'adopte le discours un peu plus mainstream qui dit que c'est les actions individuelles.
Okay.
Donc je fais le contraste entre le marxisme puis les actions individuelles dans le fond. Donc ce que je viens de dire, c'est que les actions individuelles sont effectivement politiques parce que les choix individuels de milliers de gens ont un impact, on n'a pas le choix. C'est pour ça que c'est le parti CAQ qui a gagné les élections au lieu du Parti libéral. T'sais, c'est parce qu'il y a des milliers de gens au Québec qui ont à même une action individuelle du vote ont décidé que ce parti-là. Absolument. Mais je faisais le contraste avec une approche de classe qui dit que le système, le gouvernement est contrôlé par la classe capitaliste. Je pense que c'est ça qu'on a mis de l'avant plus tôt.
Ouais.
Donc, pour faire un changement politique, pour contrôler l'économie dans nos intérêts, il faut faire un mouvement de masse sur des bases de classe.
Voilà.
Qui inclut tout le monde.
Pour faire simple, le plus grand nombre a des intérêts communs. Il faut les mettre de l'avant pour changer ce système-là.
Et voilà.
Voilà.
Est-ce que, là, on a donné une bonne base pour comprendre, tu sais, c'est quoi une base du marxisme? Est-ce qu'il y a d'autres choses que, d'après toi, on devrait jaser ou pour aujourd'hui, ça va être assez?
Ben, mais est-ce qu'on s'accorde pour dire qu'on fait un wrap-up de ce qui vient d'être dit? C'est-à-dire que là, on vient de partir d'une période historique qui était le Moyen-Âge pour qu'on a fait du chemin ensemble pour dire que finalement, la bourgeoisie a lutté jusqu'à la révolution industrielle, donc mettons jusqu'au 19e siècle, et à travers bien sûr le 19e siècle, pour s'affirmer, pour faire prévaloir leur intérêt de classe, comme on vient de mentionner, et qui jusqu'à ce jour, finalement, c'est cette même classe-là qui est à la tête, qui forme l'élite internationale et nationale. Veux-tu rajouter quelque chose là-dedans? Dans le sens que, mettons que par rapport au marxisme, là, on vient quand même de donner la base, là. C'est-à-dire qu'il y en a qui contrôlent l'argent, puis les usines, puis t'en as d'autres qui subissent, qui vont travailler, puis qui ont pas grand-chose à dire, finalement.
Ben, c'est exactement ça. Alors, on voit... Ben, on a fait de l'analyse marxiste de l'histoire, tout ça pour nous amener en 2020, pour nous guider vers la conclusion que, pour faire un changement social fondamental, radical... Ben, il faut le plus grand nombre, puis pour avoir le plus grand nombre, ben, il faut s'organiser sur des intérêts de classe, parce que ceux qui veulent, par exemple, limiter les changements environnementaux, puis faire de notre planète une planète vivable à long terme, ben, c'est les travailleurs. Parce que c'est notre terrain, c'est notre eau potable, puis nous autres, on n'est pas riches, on peut pas déménager dans un autre pays, on peut pas se faire des bunkers, puis des espèces de maisons qui prennent des 8 acres de terrain, tu sais, comme les riches, là, j'ai vu un article qui se partait des projets de bateaux-bulles, où est-ce qu'il y avait des sociétés sur... Bref, tu vois, des niaiseries de même.
Ah ouais.
Tandis que nous autres, on habite où est-ce qu'on habite, puis il faut faire... il faut vivre dans un monde où est-ce qu'on paye notre nourriture, puis quand la nourriture augmente de prix, ça nous affecte. Quand on perd des maisons, dans le nord québécois à cause de l'inondation. Puis là, les terres, il n'y a plus personne qui peut acheter ça, qui veulent l'acheter parce que là, c'est inondé. Ben ça affecte pas les riches. Ça affecte les gens comme toi puis moi. Mm-hmm.
Fait
que c'est ça. Ça vient mettre un peu la conclusion à notre premier podcast que l'analyse historique marxiste nous permet de comprendre, un, d'où vient la problématique de notre société, et de deux, ça nous offre une voie de lutte.
Ouais.
Donc, Charles, je pense que je vais te remercier d'avoir été là pour le premier podcast.
Merci, camarade.
Puis, on vous revoit au deuxième podcast d'Alternative Socialiste. Regardez sur notre site web, sur notre Facebook. Puis, encore une fois, je vous remercie d'être là. Merci, Charles.
Merci à toi.
Salut.
Alternative Socialiste est un groupe politique qui lutte pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Joindre Alternative Socialiste, c'est s'impliquer dans la lutte.